Bienvenue à Padoue, un petit village paisible de l'arrière-pays de la Gaspésie. Ici, tout est vert et paisible. De rares voitures viennent troubler la quiétude des lieux et nous rappellent de plein fouet que la civilisation existe toujours. Tout au long d'une portion de cette route, on peut voir d'intrigantes petites maisons blanches de la grosseur d'une main. Le maire de l'endroit, Gilles Laflamme, n'a pas manqué de m'en parler.
Tu remarqueras aussi, juste une petite observation, les petites maisons qu'on a mis là, là c'est toutes les places qui avaient des maisons avant. En montant, tu vas voir, il y en a beaucoup.
Qui avaient des maisons?
Avant.
Puis pourquoi il n'y a plus de maisons?
C'est parce qu'ils ont disparu avec le temps. Ça veut dire... Les familles ont déménagé. Le gros boom, nous autres, ce qui s'est fait, pareil, dans tous les villages, Expo 67. Ça, tout le monde a parti de Montréal pour aller travailler. C'était comme la Bay James, dans ce temps-là. Tout le monde a parti.
Ces maisonnettes blanches en plastique ont été placées en bordure de route lors du centenaire du village cet été. Sur le chemin principal, il y a plus de petites maisons blanches que de véritables maisons. Ces points blancs dans le paysage rappellent qu'un jour, beaucoup de gens vivaient à Padoue. Et même si plusieurs sont partis, plusieurs veulent y rester. C'est le cas de Gilbert Rioux, l'un des organisateurs du centenaire.
Padoue, c'est un peu spécial. Padoue, le monde, on est ancré ici. On a du monde, des bons vivants. On a presque tout ce qui est ici dans le village, c'est tous des anciens de Padoue. On a à peu près juste 2-3 familles qui ne sont pas d'ici. On se sent bien ici. Moi, personnellement, tant que je vais pouvoir, je vais retraiter ici. Je vais rester ici. J'ai 56 ans et il y a juste 6 ans de ma vie que je n'ai pas été...
Et Gilbert Rioux n'est pas le seul à vouloir vieillir ici. Quand on questionne d'autres habitants sur les petits quelque chose de ce village, eh bien, les mêmes qualificatifs reviennent. La tranquillité, la beauté des lieux, la solidarité. Et les Padoviens savent que...
Excuse-moi de t'interrompre, Nancy, mais le thème d'aujourd'hui dans le champ lexical, c'est le mot « danger ». Puis c'est bien intéressant ton affaire de village, là, mais je vois vraiment pas le rapport.
Mais c'est que le village de Padoue est en danger.
Personne va les visiter parce qu'ils sont trop loin.
Non, laisse-moi continuer, tu vas voir. Et puis, ils sont pas si loin que ça.
Finalement, vous êtes loin. On est loin de quoi? Tu sais, t'es loin de quoi, en fin de compte? C'est vous autres qui êtes loin. On n'est pas loin, nous autres, de Montréal. On n'est pas loin de partout. Ça nous fatigue même pas. Si t'as un beau show qui est à Montréal, tu vas partir, tu vas y aller.
Vous écoutez dans le champ lexical l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, le mot thème, c'est danger. Et on commence avec l'histoire de Padoue, le village en danger.
Qui va être sauvé par le ketchup.
Va être sauvé par le ketchup. Hein?
Ben oui, tu vas voir. Aujourd'hui, il y a très exactement 265 habitants à Padoue. Mais le village a déjà été plus prospère avec plus de 1000 habitants et plusieurs commerces.
Il y avait 4
ou 6. Ah ben, plus que ça, il y en avait un là, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y en avait jusqu'à six.
Il y avait pas beaucoup de choses ici, mais ça, on ne l'a pas connu, ça. Non, c'est pas qu'on a connu.
Pas si vieux que ça.
On a connu nous autres, dans la période des au moins 3 épiceries.
C'était inquiétant de voir ça fermer, ces épiceries-là. Comment qu'on vivait ça quand on était ici? Est-ce qu'on sentait qu'on allait perdre notre village ou?
Oui, puis là, en plus, qu'il en reste juste une, puis elle t'a appelé à fermer le site avant.
Malheureusement, il n'y a pas que les dépanneurs qui ferment à Padoue. Le centre de santé le plus proche se trouve à Mont-Joli, soit à une trentaine de minutes en voiture. Est-ce que Padoue soufflera encore bien longtemps ses chandelles d'anniversaire? L'organisateur du centenaire, Gilbert Rioux, en doute.
La population vieillit, puis je sais pas ce qui va arriver dans 15-20 ans. On disait qu'on faisait notre centenaire, mais... On ne sait pas si on va un jour pouvoir faire un 125e. Avec les petites populations comme on est là, c'est pas facile. On a notre école aussi qui est plus en danger de fermer parce que nous descendons en bas de 15 élèves. Pour les 2 prochaines années, il va y avoir une décision qui peut se prendre pour notre école.
Sans école, il n'y a plus de village. Mais les Padoviens n'ont pas dit leur dernier mot. Pour sauver leur village, une drôle d'idée leur est venue. Celle de fonder une usine à ketchup qui portera le nom de Mine à ketchup.
Mais le promoteur du projet, Jacques Blanchette,
tient à mettre les choses au clair. Ce n'est vraiment pas une mine à ketchup. C'est juste un nom. Mais à la base, c'est un peu vrai.
Mais en fait, compte, c'était comme un peu ce qu'appelle le genre urbaine. Mais en fait, compte, ça a un fond de vérité, là. Ça vient d'un... Si on veut d'une carrière d'oc, Ils servaient de l'orque pour, comme colorant, soit pour la brique ou dans, dans différents composés au niveau de la construction. Donc, c'était chargé dans des wagons. Donc, le monde sortait de là, c'était rouge. Donc, bon, ils disaient qu'ils avaient travaillé dans le ketchup, et ainsi de suite. Ça, c'est la légende, mais ça a existé, ça. Ça existait vraiment. Après ça, c'est devenu ben, le monde de Padoue, ben, la gang de le ketchup, ça.
C'est les autres villages qui vous accusaient?
Oui, c'est ça. On se faisait traiter comme ça. Puis à un moment donné, ben, il y a un enseignant ici qui a décidé de faire un pied de nez. Il a fait un projet entrepreneurial avec ses jeunes. Puis, il a fait du ketchup pour eux autres, justement, se ramasser des fonds pour des activités scolaires. Puis, ça s'est vendu parmi les familles ici dans le coin, puis un peu partout. Donc, à partir de cette idée-là, ben ça a quand même fait des clics dans la tête de plusieurs. En fait, on a formé un comité, on a commencé à analyser ça. On s'est mis à travailler là-dessus. Là.
Trois produits mijoterons dans cette usine, soit deux salsas et un ketchup Still Heinz, mais avec un petit quelque chose en plus. La mine à ketchup sera équipée par la fine pointe de la technologie allemande et pourrait produire d'autres aliments comme de la confiture. Pour le promoteur du projet, André Laflamme, l'usine pourrait rapporter plus de 800 000 $ en plus de repeupler le village.
Nous autres, qu'on ciblait, c'était environ 5 employés, mais on s'était mis comme objectif maximum peut-être 7 employés. Mais ça, c'est en étant conservateur, mais avec jusqu'à date les contacts qu'on a établis, les feedbacks au niveau provincial, parce que là, ça a fait le tour de la province, cette affaire-là. Là. C'est bien beau, mais il en parle partout. C'est pas dit que ça sera pas plus que ça. Là.
Ah ben, bonjour, monsieur. Bonjour,
monsieur.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Ah bon, monsieur
Dufort? Vous prenez au naturel?
Ben oui.
Pierre Dufort est l'ancien maire de Padoue et un fervent défenseur de son village. Il a lui aussi décidé de s'attaquer à un problème, celui des terres agricoles et des quotas laitiers dont les prix sont excessivement chers.
Selon lui,
l'avenir du village se joue dans l'économie de proximité. L'ancien maire travaille sur un projet de viande biologique produite à petite échelle qui rendrait les terres accessibles à des nouvelles familles.
On a patenté un projet qui s'appelle l'incubateur de ferme. Et c'est de pouvoir permettre à des jeunes familles de s'installer de façon concrète. Pour réussir ça, il faut avoir un réseau de distribution de produits. Ils l'ont. On l'a déjà, ce réseau-là. Et ce qu'il faudrait, c'est une mise de fonds pour permettre l'achat de petites fermes. Et au lieu de coûter 1 million pour les quotas de lait, puis les ci, puis les ça, puis la grosse machinerie, on y va doucement, vous savez, avec de la mise en commun de machinerie, puis toutes sortes de choses. Mais toujours dans un esprit de dire, on va livrer directement au consommateur. Le projet est fait, il y a un plan d'affaires, et on sait comment ça coûte, on sait quoi faire, etc. Puis il y a des fermes à vendre à l'heure actuellement. Et ils sont vendus aux Chinois, ou je ne sais pas qui, mais en tout cas... C'est pas avantageux pour établir des jeunes. Parce que nous autres, ce qu'on veut, c'est remplir les rangs. Parce que si les rangs sont pleins, le village est correct.
Même s'ils sont créatifs et promoteurs, ces projets ne vont pas ramener 1000 personnes au village.
Et pourtant, M. Dufort reste confiant.
Le projet de Gilles de produire du ketchup à Padoue, c'est la même chose. Il y a des producteurs de tomates, on a plein de monde ici. Ça assurerait, pas une survivance, mais une maintenance de quelques emplois. Puis quelques emplois à Padoue, c'est énorme. Parce que c'est une population de 265, 5 jobs, c'est aussi gros que 1000 emplois à Montréal. Là. Ah, 1500, je dirais.
Et qui sait, d'ici quelques mois, peut-être pourrons-nous nous aussi sauver Padoue. Il nous suffira de tremper un bout de viande bio dans du ketchup fraîchement sorti de la mine. Ça serait vraiment joindre l'utile à l'agréable.
La journée avait pourtant bien commencé. C'était une journée comme une autre, soleil, baignade. Les enfants jouaient dans l'eau. Le camp Saint-Donat était tout ce qu'il a toujours été, du gros fun sale sur le bord d'un lac superbe. Cette fois-là, je faisais encore la job que j'ai aimé le plus faire, soit faire de la vigie sur le lac en bateau moteur, l'occupation la plus intellectuelle qu'on peut trouver dans un rayon de 200 km de Saint-Donat. Malgré le soleil, le vent s'est levé au milieu de l'après-midi, rendant les activités pour enfants un peu plus comme de la compétition olympique. Les kayakistes avaient beau forcer de tous leurs bras, ils faisaient du moonwalk sur le lac. Vers 17h15, alors que je fermais la plage pour l'heure du souper, j'ai eu l'appel au CB du directeur du camp qui m'indiquait que des jeunes de 13-14 ans, partis en expédition au village de Saint-Donat, n'avaient jamais été capables de revenir par le lac. Ils avaient abandonné leur canot partout sur les berges du lac Archambault et étaient revenus à pied.
« Faut que t'ailles les chercher »,
me dit le directeur avec son enthousiasme légendaire. Évidemment, j'aurais pris le temps d'aller me chercher un petit quelque chose à manger avant de partir sur le lac plein de remous. Évidemment, c'était juste des canots puis il n'y avait personne en danger. Évidemment, je me suis dit « Cool, je pars en repérage, je souperai plus tard, j'aime ma job! » Je quitte le quai dans ma chaloupe en aluminium bleu argenté. Le vent est fort, mais le soleil tape toujours, donc j'ai encore et toujours du plaisir à faire cette job-là. Petite parenthèse géographique ici. Le lac Archambault a une superficie de 14 km², puis ça prend environ 30 minutes la traversée en bateau à moteur. Vous allez me dire, comment on fait pour chercher des canots sur une berge d'un lac de 14 km², Nadine la navigatrice? Ben, c'est ça! C'est tough en tabarnak! Bref, j'aime toujours autant ma job. Mais j'étais débrouillarde et je connaissais surtout mes jeunes. J'ai donc déduit assez rapidement que « canot abandonné » voulait sûrement dire « on s'est même pas risqué à aller sur le lac ». Donc je me suis dirigée bien vite vers la marina du village. Comme de fait, les 7 canots sont là, entassés dans un tapon, puis ils se cognent entre eux comme 7 foodies qui essayent de rentrer dans un nouveau magasin de macarons. Je me gare. Que dis-je? Je m'amarre. À vrai dire, je me parque, je me tire vers les canots, j'en attache 2 après la corde de remorque de ma chaloupe. Mon but, c'est de faire 3-4 allers-retours, sinon ça va me prendre 1000 ans avant d'avoir de quoi dans ma gueule. Je répète, j'ai faim, mais j'aime ma job toujours autant. Le ciel se couvre et les nuages passent de transparent clair à gris-noir fâché, je vais te péter dans la face, ce sera pas long. Bon, j'avais 3 options. Soit 1. Je suis responsable et je m'arrête au village, je vais au resto commander une poutine, puis je demande au CB que quelqu'un vienne me chercher en voiture et paye ma facture. Soit 2, je suis fucking téméraire puis je m'enfonce dans un lac transformé en océan pour les besoins tragiques de l'histoire. Soit 3, je suis naïve puis je me rends pas compte qu'il y a un réel danger. Ben, j'ai opté pour la naïveté. J'aime ma job, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? J'étais partie depuis 12 minutes, j'étais en plein milieu du lac quand je dois m'arrêter pour déchavirer un des canots. Avant de repartir le moteur, je ressens comme une pression. Le temps est lourd. Je lève les yeux, le ciel est noir. Noir foncé. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 12. Il n'y a plus un bateau sur le lac. Je me fais l'équation. Je suis toute seule, en plein milieu du lac, dans une putain de chaloupe en métal de marde, en plein orage électrique. Un peu plus, puis je portais mon armure de chevalier, puis j'avais ma lance de 6 pieds. Les éclairs commencent à frapper au loin. Moi, je reste là, je bouge pas, j'ose même pas partir mon moteur d'un coup que le bruit attire l'attention de l'éclair. Je regarde le paratonnerre sur la montagne à 50 km de moi, puis je me dis que si je pogne un éclair paresseux puis un peu verge, ben, ça tentera peut-être pas de s'étirer le bras puis de faire un effort pour sauver une vie humaine. Anyway, un éclair, ça pense pas. J'aimais moins ma job à ce moment-là. Why the fuck je suis pas serveuse au Saint-Hubert comme toutes les filles de 23 ans? Puis c'est au moment où je me rends compte qu'il manque considérablement d'objets en caoutchouc dans ma chaloupe que l'éclair a frappé. Là. Juste là. En fait, je devrais dire ici. Ici même, dans ma face, à 20-30 mètres de moi dans l'eau du lac. Puis à travers toutes les questions que je me suis posées en même temps, comme « Y a pas un danger que ça se propage dans l'eau, un éclair? Pourquoi il m'a épargné? Était-ce un avertissement de Dieu? » Voyons, Calice, quelle petite question conne que je me pose. J'ai craqué mon moteur, puis je suis partie en trombe vers le camp, le moteur dans le tapis, puis la chienne à mes trousses. Ce fut le plus long 15 minutes de l'histoire du temps. J'ai passé une éternité dans la 4e dimension. Je finis par arriver. Le directeur du camp, le chef du camp, son adjoint, mes collègues coordonnateurs m'attendaient inquiets sur le quai. Je me parque. J'attache mon bateau. Je me couche dans le sable en criant de soulagement. J'étais trop contente d'être sur la terre ferme, hors de danger, enfin.
« Tu repars plus »,
me dit le directeur du camp dans toute sa verve légendaire. Mes amis viennent me voir, me font la collab. Ils ont eu aussi peur que moi. Je les regarde, je les aime, puis j'aime ma job toujours autant.
Vous arrivez aux douanes en transportant votre ukulélé. Le douanier, méfiant, craint que vous ayez à la main quelque arme dangereuse. Parano? Quiconque a déjà vu un film où le gangster sort son arme d'un étui de violon comprendra la méfiance du représentant de l'ordre. Mais une fois qu'il constate que l'étui ne contient que ce petit instrument polynésien, cet avorton de guitare, comme l'appelle Thomas Fersen dans la chanson Ukulélé, devrait-il baisser la garde et se croire hors de danger? Pas si sûr.
Bonjour douanier, je suis le barde. Relève ta hallebarde. Ce petit bagage, ce petit étui, ce n'est pas celui d'un tueur à gage, c'est ma crevette, mon tétard, mon avorton de guitare, c'est ma guitare porte-clé, c'est ma guitare de poupée. Muselle ton chien de garde, ouvre les yeux et regarde. Au fond de la grotte habite un génie qui sort de la nuit lorsque je le frotte. Le représentant de l'ordre ne veut pas se faire mordre. Il me prend pour un fêlé au son du ukulélé. Il est saisi d'épouvante, cette bûche est bien vivante. C'est ma crevette, mon tétard, mon avorton de guitare, c'est ma guitare porte-clé, veux-tu l'essayer? Le douanier n'y prend pas garde, et il se plante une écharde, un éclat de bois dans le petit doigt, ça s'est infecté, hélas il nous a quittés. Me voilà dans les nuages, avec mon petit bagage. Il arrive au paradis, et voilà ce qu'il dit. Bonjour douanier, je suis le barde. Relève ta hallebarde, cette petite mallette, ce petit étui, ce n'est pas celui d'une mitraillette. C'est ma crevette, mon tétard, mon avorton de guitare, c'est ma guitare porte-clé, c'est ma guitare de poupée. Quand le monde est trop bouillon, je sors mon petit grillon. Je sors mon ukulélé.
Voici maintenant le 3 minutes Vox Pop.
Comme une attaque, là? Ben, c'est dur à dire sur le coup, hein? Le monde, ils s'en attendent pas du tout.
J'aimerais regarder derrière soi, marcher la tête haute.
T'essaies de te défendre, me semble.
Je me défends, là, avec ce qui traîne, là, une barre de fer, n'importe quoi.
Et puis, c'est sûr qu'il y a des techniques d'autodéfense, mais...
J'essayerais avec mes pieds, en tout cas, là. J'essayerais, je suis assez alerte, là. J'essayerais les pieds.
Ça arrive chez nous, j'ai un bat de baseball.
Si j'ai un bâton de baseball, je me ferais pisser sur le temps.
Je
plutôt instinctive, moi. Disons, la première affaire pesante qui me tombe sur la main.
D'habitude, je me tiens de quoi dans mes... un couteau de quoi, mais là, puis là. Un moment de baseball, c'est juste dans la maison, là, tiens. Disons, ça vient cogner dans la nuit. Parce que où que je demeure, là, depuis une seconde, il y a beaucoup de vol.
Tu descendais la rue, tu vois, le gars, il me suivait en arrière. Je savais qu'il me suivait, puis je passais l'école Baril, puis là, tout à coup, je me suis reviré devant. Je dis, qu'est-ce que tu peux t'abattre? J'étais toute jeune, là, j'avais même pas 20 ans. Puis j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, t'abattre? J'ai un caractère un peu. Ça dépend comment quel caractère que t'as aussi. Mais déjà là, le gars était tellement récemment surpris, il revirait de bord, parti en courant dans le sens opposé, puis...
Je sais pas, j'ai l'impression que je crierais bien, bien fort ou venant, je m'écrase à terre.
Que là, j'ai... même la police est venue chez nous, puis ils m'ont dit c'était correct qu'est-ce que j'avais là.
La première partie, je vise la tête tout de suite, puis après, j'ai des fourchons.
Ouais, mais c'est bien... Mais parce que si je lève mes mains, il va me pogner les mains. C'est ça?
Ça va, si c'est un gars, c'est sûr, d'un coup de pied d'un parti.
Mais si c'est un homme, c'est sûr, entre les deux jambes. Là.
Si c'est un monsieur, dans le monsieur. Mais je pense que c'est la place où ça change les idées, en tout cas.
Mais il y a toujours ici la pomme d'Adam qui est très... Ça coupe le souffle, c'est sûr. Le bas-ventre, les parties génitales. C'est un talon haut.
J'avais des petites sandales là, à talon haut. Et puis, il y a un gars qui me faisait face. Puis, j'avais juste un petit sac à main, je le tenais en dessous du bras. Puis, il me regardait, mais je ne savais pas ce qu'il me voulait. Là. Puis, il a tiré dessus. Puis, c'est ma courir. Bien, j'ai couru après lui. Et puis, je courais par derrière de lui. Puis, il tenait mon sac à main comme ça, là, dans les airs. Puis là, il y avait une camionnette qui descendait la rue, Elwin, c'est là. Elle descendait la rue, puis le gars l'a vu. Fait que le type, il a arrêté son camion, puis il a sorti, puis il a crié après le gars, « Donne-moi ça, toi! » Il a donné. Mais j'étais essoufflée! Ouais. Ça, c'est les... Ça, c'est quand t'es nerveuse, hein. Je voulais avoir mon sac, là. Je le voulais, ce sac.
L'adrénaline.
J'étais sur l'adrénaline, oui.
C'est ça?
Alors, voici une brochette en maison faite avec notre pain de manioc grillé.
OK. Qu'est-ce qu'il y a dans les ingrédients? Qu'est-ce qu'il y a de différent qu'un pain normal?
Ben, c'est qu'à la base, justement, donc c'est une farine qui est sans gluten. Le manioc, c'est une tubercule. Donc, c'est une tubercule qui permet de...
Vous êtes en train d'assister, auditivement parlant, à un repas qui ne contient aucun des 8 allergènes prioritaires. Soit
le gluten, le lait, les œufs, noix, arachides, poissons, fruits de mer, sésame, soya.
Avec
Dominique Dion, je suis un des copropriétaires de 08.
Qui est un restaurant parfait pour les allergiques, pour qui le monde de la bouffe peut être fatal. Et où il n'y a aucun danger de tomber sur
le gluten, le lait, les œufs, noix, arachides, poissons, fruits de mer, sésame, soya.
Vous écoutez dans le champ lexical, et cette semaine, le mot c'est « danger ». Une émission certifiée sans...
Le gluten, le lait, les œufs, noix, arachides, poissons, fruits de mer, sésame, soya. Et des histoires d'horreur, il y en a. Je peux vous en raconter une parce qu'on est sur le thème du danger. Je vais essayer de la faire très courte, mais parce qu'elle est un peu longue. Mais imaginez-vous qu'un couple est en avion. Ils ont une réaction allergique qui exige, non, la personne, la fille, donc ils exigent d'atterrir d'urgence. L'avion ne peut pas atterrir aux États-Unis parce que c'est un avion cubain, donc peu importe, ils aboutissent à Montréal, ils tombent ici, et là, soudainement, ils tombent à notre restaurant, puis ils viennent manger ici, puis ils disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils m'ont raconté d'histoire? » Alors, imaginez-vous aller en avion, comment ça peut être stressant pour une personne qui est allergique, parce que quand on est une allergie de type IgE, je ne vais pas rentrer dans les termes scientifiques, mais le risque d'avoir des séquelles graves, même de mourir, est très important. Donc, il faut se rendre à l'hôpital lorsqu'on a une réaction de type anaphylactique. Et ça, quand on est à 20 000 pieds dans les airs, ça peut être extrêmement stressant.
OK, mais mettons qu'on n'est pas en avion en train de mourir d'allergie. Pourquoi est-ce qu'on part à un restaurant sans...
Le gluten, le lait, les œufs, noix, arachides, poissons, fruits de mer, sésame, soya. Je suis en fait tombé malade et j'ai dû découvrir que je devais enlever dans mon alimentation le gluten et le lactose. Et on a décidé de faire avec des associés un modèle d'affaires autour de ça, donc de dire on va développer une entreprise dont la promesse, c'est de rendre la vie un peu plus facile à tous ces gens-là qui vivent avec ces problématiques-là, pour leur donner du bonheur de regarder un menu et de dire « mon Dieu, je peux commander tout ce que je veux ici ». Bien, les grands défis, ça a été autant sur l'élaboration des recettes, parce qu'on enlève quand même des choses qui sont extrêmement communes dans une cuisine. Hein. On n'a pas d'œuf, on n'a pas de lait, on n'a pas de farine, imaginez-vous. Alors, ça a été, bon, évidemment, un défi d'aller trouver des substituts, d'aller trouver des recettes originales. En fait, on se dit toujours un peu d'inspiration du monde, parce qu'on n'est pas vraiment limité à une cuisine, bien qu'on a quand même un côté un peu français, là, du fait que notre chef, Olivier, vient de France. Mais quand même, on a quand même la capacité de faire des recettes de n'importe où. On pourrait faire une recette mexicaine sur une table d'hôte un jour, il n'y aurait aucun problème ici parce que notre idée n'est pas d'avoir une cuisine unique, c'est une cuisine très variée, mais dont le thème est vraiment d'enlever ces ingrédients-là. Mais en même temps, ça nous amène à cuisiner avec très souvent un retour aux sources aussi, comme on voit beaucoup de restaurants faire, parce qu'on cuisine très souvent avec des légumes, donc avec des viandes, et on fait tout nous-mêmes, on fait nos sauces nous-mêmes, donc ce qui amène aussi un goût et une fraîcheur. Il n'y aura pas d'ajout, d'additif ou de truc, un ingrédient qu'on ne connaît pas. Là. C'est vraiment là, une cuisine basée sur les ingrédients tels qu'on les connaît. Et l'autre problématique aussi, c'est de s'assurer que la promesse ne soit pas brisée. Et ça veut dire de s'assurer auprès de nos fournisseurs, d'aller certifier nos fournisseurs, de vérifier parfois même jusqu'en laboratoire que le fournisseur nous fournit tellement de farine qui est, par exemple, sans gluten. Et vous savez, nous, on a même fait des dénonciations à Santé Canada de fournisseurs qui se disaient sans gluten, alors qu'on a trouvé jusqu'à 80 particules par million de gluten dans une épice, entre autres. Je n'aimerais pas le fournisseur, mais donc il y a eu des démarches qui ont été faites beaucoup en ce sens-là, dans le sens aussi de s'assurer que personne n'arrive avec de la nourriture au restaurant. Donc évidemment, on arrive ici avec un café, des fois on n'y pense pas, bien oui, il y a du café, il peut avoir du lait dedans, il peut avoir des noisettes dans le café, donc évidemment, on n'accepte aucune nourriture de l'extérieur.
Je suis donc convaincue, même en tant que non-allergique, j'ai le goût d'aller là déguster un bon petit pain de manioc, bruschetta, magret de canard, avec un bon petit verre de... Ah non, pas de la bière, parce qu'il y a du gluten, du vin aussi. Il y a plein d'allergiques au vin, il me semble. Est-ce que ça rentre dans les 8 allergènes? Qu'est-ce que je bois?
On ne trouvera pas ici d'amaretto, hein, parce qu'on va éliminer tous les alcools qui ont des dans le cas de la matrice de noisette, dans le cas du Baileys, ils ont trouvé de la crème. Donc, on va éliminer les alcools qui contiennent à la base des allergènes. Dans le cas des bières, évidemment, donc il y a presque la quasi-totalité des bières sont des bières avec gluten, parce que c'est à base d'orge. Donc, nous, ici au Québec, on est chanceux. Il y a deux microbrasseries qui se sont lancées dans le marché des bières sans gluten. Hein, donc, que ce soit la messagère des bières de la Nouvelle-France ou Brasseur sans gluten qui a sa gamme de produits. Les 7 bières sont disponibles ici en dégustation au restaurant. Il y a également la question des sulfites. Qui rentre dans les allergènes. C'est comme le 9e allergène qu'on ne couvre pas dans la promesse directement, parce que dans le cas, en effet, dans tous les vins, on retrouve des sulfites. Sulfites qui causent des problématiques à deux niveaux. Donc, il y a des gens qui sont à peu près aussi allergiques qu'une personne allergique aux arachides, bien qu'on parle techniquement d'une hypersensibilité, parce que c'est pas une protéine, mais les réactions sont les mêmes, essentiellement. Ensuite, il y a également des gens qui sont sensibles aux sulfites. C'est-à-dire que s'ils dépassent une certaine quantité d'absorption, ils vont sentir avec des séquelles, des migraines, des trucs comme ça. Et on commence à demander à nos producteurs de nous déclarer le nombre de particules par million qu'ils ajoutent dans leur vin, pour qu'on puisse communiquer cette information-là à notre clientèle.
J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui viennent ici et qui vous disent merci, enfin je ne sortais plus au resto, je ne pouvais plus aller manger ailleurs.
Absolument, vous savez, surtout lorsqu'on a de jeunes enfants qui ont plusieurs allergies, ou qu'on a deux enfants puis que combinés, ils ont 4-5 allergies. Alors, aller au restaurant, c'est à peu près infaisable. Souvent, ces gens-là amènent leur lunch, imaginez, au restaurant. Ici, on a eu des histoires extraordinaires. J'ai une famille qui nous a trouvés par hasard sur Internet et qui a dit, « Mon Dieu, on s'en va prendre nos vacances à Montréal. » Ils ont réservé pendant 5 ou 6 soirs, je me souviens plus exactement. Et ils venaient, imaginez-vous, de Vancouver.
Dominique Dion est copropriétaire de 08, le restaurant pour les allergiques. Mais, tant qu'à l'avoir à mon micro, j'ai pas pu m'empêcher d'aborder une autre facette du danger. une chose qui lui est arrivée, complètement pas dans le sujet des allergies. Je le laisse conter l'histoire.
Le soir du 19 au 20 mai, je suis ici avec une amie, donc je ne travaille pas à la base et je prends un verre et je prends une petite bouchée de fin de soirée. Il y a une manifestation sur la rue Ontario qui dégénère un peu. Il y a un feu qui se fait allumer. Je pense qu'il y en a eu 3 au total, mais j'en ai vu un clairement d'ici qui était visible de la terrasse. Et, bon, de fil en aiguille, je fais une histoire courte. Il y a des gens qui décident de rentrer dans les commerces et de se réfugier sur les balcons quand la police a monté pour, entre autres, permettre aux pompiers d'avoir accès au feu. Mais à cette étape-là, la police était sur les dents. Et à un moment donné, on décide, nous, de fermer le restaurant. On n'avait plus de raison, il n'y avait plus de clients.
Le resto est donc sur le bord de fermer. Les clients finissent leur verre, leur repas, et on les fait sortir, quand ils sont prêts, par derrière. Tout le reste est bloqué. La majorité des gens sur la terrasse se dirigent donc vers l'arrière et Dominique, qui porte l'infâme carré rouge, est en train de fermer la porte.
Et la porte s'est ouverte et on m'a pris, on m'a sorti du commerce. J'ai dit, monsieur, je suis propriétaire. Il dit, je mens avec des étoiles. On me pitch, et tout ça est filmé, hein, ça a été diffusé sur YouTube, on me pitch sur le fond de ma terrasse, j'ai les mains en l'air, j'essaie de le raisonner, incapable de le raisonner. Il dit, lui, on l'embarque. Mon associé finit par arriver 2 minutes après. Il se fait menacer de se faire embarquer s'il n'arrêtait pas de filmer. En fait, les gens à l'intérieur n'arrêtaient pas de filmer. Et ça a été une menace qui a été faite aux employés également. Et j'ai fini par passer, tout ça pour dire, 6 heures à l'intérieur, en prison. Je me fais libérer à 6 heures le matin. J'ai été menotté 2 heures de temps. Mon pouce en a encore des séquelles. C'est inacceptable de faire ça. On coupe le sang des mains. Là, je veux dire, ça n'a pas de sens. On peut maîtriser des individus d'autres façons. On m'a transporté avec des gyrophares d'urgence alors qu'il n'y avait aucune urgence de m'amener au poste. Là, on s'entend, je suis menotté en arrière avec un co-détenu. Il n'y a aucune raison de mettre ma vie et la vie des autres en danger. C'est samedi 3 h le matin à Montréal. On s'entend qu'il y a des piétons qui ne sont pas toujours très à jeun, si je peux me permettre.
Dominique, qui s'est fait arrêter sans se faire lire ses droits et sans connaître le numéro de matricule du policier, c'est vite poussé, intente aujourd'hui une poursuite contre la Ville de Montréal. D'abord pour atteinte à la réputation, pas super agréable de se faire menotter devant ses clients, mais aussi une plainte en déontologie. Son restaurant, le 08, est sans danger pour les allergiques, mais sans danger, soyez rassurés, pour les autres aussi.
Sur le bord du gros. On improvise les chansons. On essaie de faire de la composition en temps réel, en fait, avec l'aide de nos chanteurs, ouais, qui doivent improviser des paroles. À partir des demandes du public.
Sophie Caron, chanteuse.
Bruno Coulombe, guitariste.
Moi, c'est Éric Desranleau, le chef d'orchestre.
Christian Laporte, la voix.
Guétin Troutet, claviériste.
Et le nom du band, c'est...
1, 2, 3, 4.
Oh, une belle chorale.
La seule personne qui sait, en fait, quoi, comment va se dérouler le spectacle, c'est l'animateur. Le show est conçu comme le public assiste à l'enregistrement d'une fausse émission de radio, en fait. Et l'animateur radio, lui, il a été dans la foule une demi-heure avant que le spectacle commence, 15 minutes avant que le spectacle commence, et il prend les demandes spéciales, donc des noms d'artistes inventés, des styles musicaux que les gens veulent entendre, des chansons, des titres de chansons inventées. Puis quand je dis styles musicaux, là, ça peut être... électro-coquin, tu sais, ça peut être
un
ça,
reggae
là.
Russe.
Un reggae russe, mettons. Et donc, l'animateur, avec tout ça, lui, fait son pacing de show, mais sans nous le dire. Alors, c'est lui, l'émission commence comme une émission de radio, et il envoie des disques, il fait on va écouter telle chanson, on va écouter telle chanson de tel auteur, blablabla.
Et puis, il peut rajouter, par exemple, il y a un solo de chanteur d'opéra au milieu, à couper le souffle. Ouais.
OK, donc on résume. Vous arrivez sur scène, vous n'avez aucune idée quelle musique vous allez jouer, vous n'avez aucune idée de ça va être quoi les paroles, de quel style. C'est pas un peu dangereux?
C'est un peu dangereux, beaucoup dangereux. Mais c'est parce que nous, on aime ça, le danger!
Eh bien, il est là. Il est avec nous en studio. C'est un honneur pour nous de le recevoir. Enfin, nous allons le savoir en lui parlant. Châtelain Safari, bonjour. C'est vous, ça, Châtelain?
Oui, c'est moi.
Allons donc vers le fond. Châtelain, vous avez commencé comme chansonnier à la guitare.
Oui, j'ai fait tous les bars. Ouais.
J'aimerais qu'on entende cette chanson à thème, Les Vidangeurs. Très belle chanson. Du reste, on en reparle après votre
excellent.
Interprétation.
On dit d'eux qu'ils buent, on dit d'eux qu'ils sortent de prison. On dit d'eux qu'ils errent à travers les saisons. Mais moi je sais bien que tout ça n'est que foutaise.
S'il fallait que, par exemple, une seule personne joue de la guitare, invente des paroles qui correspondent aux thèmes, qui sont drôles, qui racontent quelque chose, ça serait peut-être un peu difficile. Mais là, le fait d'être un band complet à 5 musiciens, avec chanteurs et chanteuses, ça permet de réunir ces forces-là, puis de distribuer un petit peu le contenu du show sur la musique. Des paroles, il y a des solos, des chansons qui sont juste guitare-voix, il y a des chansons instrumentales, il y a des chansons où les gens on joue pas toujours full band, donc ça aussi, ça contribue à la variété.
Ouais, parce que le fun du show, là, le public, il vient pas assister à un wipe-out musical où ce qui est drôle, c'est de voir le monde se planter, là, puis recevoir, tu sais,
c'est vraiment pas non plus ce qui est important, je pense, de dire, c'est vraiment pas un jam, on essaie vraiment de faire des chansons de la chanson avec un CH majuscule. Oui. Et ces chansons-là doivent se tenir debout. C'est sûr qu'il y a des petits bouts là, que ça accroche, puis c'est ça qui est drôle, mais en général, comme on dit, mes confrères, c'est toujours assez bien ficelé. Mm-hmm.
Mais on a développé des réflexes, par exemple, à force d'en faire, ça fait quoi, là?
Trois ans
qu'on est ensemble. Puis moi, en tant que chef, à un moment donné, quand une impro ne levait pas, j'avais le mauvais réflexe de faire « ça va être bon ».
On continue.
Ça va être bon. Mais ça devenait jamais bon. Et là, ça pouvait durer 6-7 minutes. Des fois, je pense que ça s'est déjà même rendu à 10 minutes.
6-7-8.
C'est là le danger.
C'est là le danger. Il est là le danger, exactement. Mais ça, c'était un réflexe que j'ai pris à la longue de faire, OK, quand c'est pas bon, on se regarde toute la gang, puis tout le monde dans nos visages, on le voit, c'est pas bon, OK, on rappe ça, on passe à une autre toune.
Mais ce qui est plaisant aussi là-dedans, c'est qu'on se plaît à dire que les 1, 2, 3, 4, c'est un groupe qui ne joue jamais deux fois la même chanson. Donc, du fait de... On peut pas se tromper. Je veux dire, on peut pas se tromper.
Faites-vous des répétitions? Parce que...
Oui.
Ah oui.
Des ateliers, on appelle ça plutôt. Des ateliers.
Des ateliers, oui. Parce que dans les ateliers, c'est-à-dire comme c'est des chansons qu'on ne peut pas répéter puisqu'elles sont improvisées, ce qu'on répète surtout, c'est... par exemple, à Manon, on avait tendance à... Les chansons duraient trop longtemps. Mm-hmm. Parce qu'elle commençait pas assez rapidement. T'sais, au niveau des paroles, nous autres, on n'embarquait pas assez rapidement.
Ah oui, on avait pratiqué des débuts de chansons.
Exact.
On fait que des débuts, c'est vrai.
Outre la durée, il y a aussi les styles. Bon, on est beau être quand même des chanteurs d'expérience, des musiciens accomplis. On peut pas tout connaître ou tout maîtriser à perfection. Des fois, on partait sur un style. Bon, si c'était un tel genre... Qu'est-ce que tu jouerais, toi? Qu'est-ce qui fait le clavier dans ce style de musique-là? C'est comme ça qu'on arrive à être meilleur dans chacun des styles. Parce que bon, il y en a qui peuvent maîtriser plus le rock, mais personnellement, quand est arrivé mes premiers solos de jazz, j'ai eu chaud. Et là, le mot danger c'était un understatement. Alors depuis, ben moi, je me suis perfectionné dans le jazz pour être sûr de ne pas trop me faire coincer. Puis je pense que tout le monde fait un peu ça.
Quand même, improviser des chansons de façon spontanée aussi rapidement... Ça prend de la pratique, là.
Et ça prend de la confiance, en fait. Parce que, tu sais, on parle de danger. Se lancer tête perdue.
Tête première.
À cœur perdu.
Poule pas de tête.
Dans le danger.
La bugue de
l'eau. Tu sais, de façon un peu innocente, ce serait plus épeurant, je pense. Ce qui fait que... Les ateliers nous donnent cette confiance-là, l'expérience nous donne cette confiance-là, que maintenant, même si avant les shows, on est super stressé, puis on fait « OK, là, on s'en va donner un show, puis boy, voyons, je suis bien stressé à soir, voyons qu'est-ce qui se passe. » Ben, on sait que il y a quand même que ça fonctionne, qu'on est capable de le faire, fait qu'on peut plus facilement se lancer dans ce danger-là, en fait, sans avoir peur de se péter à la gueule. Ce qu'au début, on avait moins. Mm-hmm. Au début, là, moi, je suais ma vie.
Écrire des paroles de chansons, c'est difficile. Puis souvent, j'imagine qu'il y a une... Vous essayez d'être drôle en plus. Il y a une certaine notion d'humour.
Non, on n'essaie pas d'être drôle. Mais...
Ouais, souvent, on est drôle parce qu'on est drôle dans la vie. Sophie et moi, on est drôle dans la vie, puis on a ça. Puis on est... Sauf qu'on essaie de ne pas faire que des blagues parce que la musique, c'est pas juste des chansons comiques. Loin de là, tu sais. Fait que des fois, il y a des affaires qui sont un peu comiques parce qu'on les entend en spectacle. Mais sérieux, des fois, quand j'écoute la radio, il y a des affaires qui se veulent très sérieuses et qui sont beaucoup plus comiques que ce qu'on a pu faire en spectacle, des fois.
Ben oui, des fois, on se compare, hein? On écoute à la radio pour ce qu'on sait. On se dit, waouh, lui, il a passé 2 ans à l'écrire, moi, ça. Je l'ai improvisé en 2 minutes.
Exact, puis je me jugeais parce que je faisais, j'ai encore fait trop de niaiseries à soir, puis je fais, hey boy, ce qui joue à radio, des fois, c'est un peu plus niaiseux que ce que j'ai fait.
Prochain show, c'est quand, si on veut entendre ça?
Là, on va jouer le 12 octobre à Coteau-du-Lac au pavillon Wilson, puis on joue au cabaret du Myland. Cabaret du Myland une fois par mois. Oui. Le prochain est le 18 octobre, 22 novembre et 6 décembre.
Des jeudis, ça.
C'est sur le site web.
Site web 1234.com, 1234 en lettres et pas de trait d'union.
On peut-tu en faire une?
Ben ouais. Oui.
Yeah!
Ça roule. C'est quoi ton thème?
Alors, Didier Tremblay. chansonnier français installé à Montréal depuis maintes années. Votre valse, le Marathon des Oubliés, un de vos grands succès.
Le Marathon des Oubliés.
D'accord.
Une valse.
Je le fais en duo avec Coquine.
Salut!
Le Marathon des Oubliés. Mina puis Mina. 1, 2, 3.
J'ai toujours voulu aller.
arrivait pas.
Il faut, tu sais, moi, je persiste et signe en improvisation, on a le droit absolu de se la péter. Ouais. C'est fait pour ça. Mm-hmm. L'improvisation se doit d'être imparfaite. C'est la seule chose dans la vie qu'on doit faire de façon imparfaite. Donc,
je rajouterais que le public.
Mais il faut toujours être pertinent, par contre.
Le public
oui,
aime ça quand
parce que ça nous humanise. Sinon, il y a des gens qui viennent voir le show et disent ben là.
C'est travaillé.
Hey, à moi, tu peux me le dire, là. Vous les avez fait avant, les tunes. Là, tu fais, non, on les a improvisés. On a...
Ouais, ils croient
tu...
pas.
Hey, tu peux-tu m'envoyer? Je me suis fait demander de m'envoyer des paroles. Tu peux les envoyer des
Chers auditeurs, vous pouvez relaxer. C'est tout pour le danger de Dans le champ lexical cette semaine. N'ayez crainte, puisque cette émission était dans son entièreté, sans aucune trace de...
Le gluten, le lait, les œufs, noix, arachides, poissons, fruits de mer, sésame, soya.
Merci aux Wonder 3-4 qui se mettent constamment en danger, musicalement parlant. Ils sont en spectacle un peu partout. Vous pouvez visiter leur site à wonder34.com. Merci à Nadine Mathurin pour l'anecdote de Chaloupe. Nancy Caouette au reportage du désormais célèbre Village de Padoue, Annie Rossano au Vox Pop Dangereux, Sonny Duval et Mara Tremblay au thème musical. Dans Charles Lexical est une émission de Mathieu Charlebois, Joannie Larue, Nancy Caouette et Christiane Campagna. On vous attend la semaine prochaine pour parler de... Ah, de Sud.